Bonjour mes frères et sœurs, nous allons donc ouvrir le Saint-Livre. Nous allons commencer par la conclusion. Je voulais utiliser ce verset pour terminer, nous allons l'utiliser pour commencer. Dans Philémon, juste avant l'Épître aux Hébreux, il y a une prière de l'apôtre Paul. Il demande quelque chose que Dieu veut bien sûr que nous ayons chacun. Regardez bien ce qui est écrit. Philémon, verset 25. Philémon, verset 25. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Vous comprendrez mieux à la fin. D'accord ? Rappelez-vous de cette parole, que la grâce du Seigneur soit avec votre esprit. Dans le psaume 41, David passe par un moment difficile. Ça peut arriver. Il passe par un moment difficile et au verset 5, il prie. Et regardez ce qu'il dit. Son âme est malade. Ça peut arriver d'avoir notre âme en difficulté. Notre âme languissante, etc. C'est écrit. Quand vous lisez les psaumes, vous vous rendez compte que c'est impressionnant. Dans le psaume 41, donc, David dit ceci au verset 5. « Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme. » Bon, là, il explique pourquoi, il a péché. Mais ça peut être pour d'autres raisons qu'on va voir. « Guéris mon âme. » Si vous lisez les psaumes, vous vous rendez compte combien notre âme peut être troublée, combien notre âme peut avoir des soucis, combien notre âme peut être angoissée, notre âme peut être abattue, courbée. C'est impressionnant, notre âme est morte même. Mon âme est morte, mon âme est brisée, mon âme pleure de chagrin, mon âme est en prison. On voit dans la parole de Dieu combien notre âme peut passer par des moments difficiles. Vous êtes d'accord avec moi? Notre âme peut être malade. Alors, je vais prendre l'image du corps. Vous avez remarqué que lorsque notre corps envoie certains signes, de la même manière, nous nous précipitons chez le docteur, vite souvent d'ailleurs. Certains, dès qu'ils ont un petit truc, vite, vite. Il faut aller voir le docteur, j'ai des crampes. J'ai des crampes, je me suis couché, j'ai ma jambe qui saute toute seule. Je l'ai entendu ça, je prends des exemples que j'entends. J'ai des crampes, il faut que je sache qu'est-ce qui se passe. Donc je vais voir le docteur, il me fait faire une analyse de sang, une prise de sang, et je me rends compte que, eh bien c'est pas méchant, je manque de magnésium. C'est pas comme ça que ça se passe un peu hein? Donc le docteur me dit, voilà, il faut peut-être boire de l'eau épars, ou des bananes, manger des fèves, des lentilles, du chocolat noir. Oui ou non? Et nous faisons parfois des diagnostics, c'est impressionnant. Parce que nous avons besoin de savoir où nous en sommes au niveau de notre corps. Il y a des gens qui veulent absolument que leur corps soit en bonne santé. Et ils font ce qu'il faut. Mais franchement, écoutez-moi bien, frères et sœurs. Je comprends très bien que quand il y a quelque chose qui vous fait mal, vous consultiez un docteur, c'est tout à fait normal. Et que vous vous appliquiez à faire exactement où là je me... Vous savez, quand vous prenez des analyses, il y a des barèmes, là, il y a un barème haut et bas. Vous savez, il y a des marqueurs, là, une borne d'inférieur, une borne supérieure. Et vous dites, oula, j'ai un peu trop de cholestérol. Qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Mais est-ce que vous prenez de la charcuterie? Mais oui, il faudra supprimer la charcuterie. Vous êtes d'accord? Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Donc, vous avez bien compris qu'on ne va pas parler de régime alimentaire. Mais dans quel état se trouve notre âme, de la même manière que vous avez tous raison, plus ou moins, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême dès qu'il y a un petit problème. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin pour savoir dans quel état se trouve votre esprit? Est-ce que vous êtes d'accord? À quoi reconnaît-on un esprit qui est en bonne santé? Parce qu'on peut vivre dans l'illusion et ne pas savoir dans quel état on est. Vous êtes d'accord avec moi? Le plus spirituel d'entre nous peut se tromper. Parce qu'il n'a pas cette attitude de cœur qu'il devrait avoir. Alors on va voir ce matin à quoi on reconnaît un esprit en bonne santé. C'est d'autant plus important que le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Et que nous ne devons pas penser qu'à notre santé spirituelle, nous devons penser aussi à la santé de l'Église, car vous le savez, si nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur, c'est parce que nous avons été convaincus de péché par le Saint-Esprit, et Dieu habite dans un homme, dans son esprit. Et si nous revenions à une prédication que nous avons apportée il y a quelques semaines, à savoir que l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, nous comprendrons mieux combien c'est important de savoir si, individuellement, je suis en bonne santé. Dieu s'intéresse à l'esprit de l'homme, croyez-moi. Dieu s'intéresse à votre esprit. Vous, vous vous intéressez à votre corps, peut-être même à votre âme, dans le sens des émotions, mais nous avons un esprit. Beaucoup de gens dans le monde ne savent même pas qu'ils ont un esprit. Donc nous allons faire quelques lectures que je vous encourage peut-être à méditer, comme vous méditez vite le résultat d'analyse de sang. Il y a des gens, ils courent chez le docteur pour savoir qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Et je pense qu'on devrait peut-être courir dans la présence du Seigneur pour savoir ce qui ne va pas. Donc nous allons faire quelques lectures. J'espère les faire prendre toutes celles que j'ai choisies dans Ésaïe 66. C'est important, mes frères et sœurs, je vous assure. Je vous encourage à mettre un petit marqueur dans votre Bible, ou de le noter encore mieux, et peut-être dans la semaine de dire, mais tiens, est-ce que où j'en suis de ma santé spirituelle, parce que c'est facile de voir la poutre ou la paille plutôt dans l'œil et de ne pas voir sa poutre. Ça va très loin cette affaire de discernement sur les autres et de manque de discernement sur soi. Lisons ces textes. Mes frères et sœurs, je sais que plusieurs d'entre nous ont vraiment besoin de cet enseignement. Ésaïe 66, ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Regardez bien. Un esprit en bonne santé, alors j'aurais pu prendre d'autres textes, j'ai pris celui-là en premier, bon comme ça. Celui qui a l'esprit abattu et sur celui qui craint ma parole. Alors l'esprit abattu dans le sens de, pas dans le sens de découragement, on va le voir tout à l'heure, pas dans le sens de découragement, mais celui qui a beaucoup de respect pour la parole. Vraiment le respect de la parole, celui qui tremble à ma parole, dit un autre texte. Là, on n'est pas dans la confiance en soi, on est dans le respect de la parole, comme Noé qui était saisi d'une crainte respectueuse, c'est pour ça que Dieu l'a utilisé. Il avait ce respect de la parole, et à quoi on reconnaît quelqu'un qui commence à être en bonne santé, c'est qu'il a vraiment du respect pour la parole. Il a un esprit abattu. Alors, on va prendre peut-être notre texte pour conjuguer celui-ci. Dans le psaume 51, il y a cette même pensée qui revient. Ça revient souvent, cette pensée, parce qu'on en a besoin. Vous voyez, dans le psaume 51, au verset 19, David est en train de passer par un moment de restauration. Il doit dire certaines choses au Seigneur. Il va les lui dire. Et dans ce contexte-là, il dit ceci. Regardez bien, psaume 51, verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Pardon. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit brisé et contrit. Le contexte, c'est le grand et grave péché de David. Lui, il s'exprime, il dit voilà ce qui plaît à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, je vais vous poser une question très sérieuse. Parce que je sais pertinemment que beaucoup sont concernés par ce qu'on va lire, ce que je vais vous dire. Ces textes que nous venons de lire, ces deux textes, nous montrent qu'il y a quelque chose qui plaît à Dieu. C'est quand un esprit, il est contrit, il est brisé. Par rapport à quoi ? Par rapport au péché. Écoutez-moi, frères et sœurs, c'est un problème archi-grave dans l'Église, avec un grand E. Un chrétien qui ne ressent rien dans son cœur après avoir péché a vraiment un problème de santé spirituelle. Et nous nous en rendons compte lorsque nous parlons avec les gens, on s'en rend compte. Il y a des gens qui commettent des péchés flagrants et qui ne se sentent même pas interpellés. Ils ont même le culot d'en parler. Sincèrement, mes frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu veut dire, puisque c'est écrit, que Dieu aime un cœur brisé, un cœur contrit, un chrétien en bonne santé spirituelle, après avoir commis un péché, car ça arrive, eh bien, de suite, il se sent malheureux, brisé. J'ai menti. Le mensonge, frères et sœurs, c'est grave ou c'est pas grave ? Imaginez-vous, est-ce que ça peut arriver de commettre un mensonge ? Est-ce que ça peut arriver ? Ben oui. Je mens à monsieur de Dieu. Je lui mens. Je parle dans la par bêtise. Je lui mens. Si je suis en bonne santé, je vais m'en rendre compte lors de mon prochain culte personnel, lors de ma prochaine sainte cène. Le Saint-Esprit va m'interpeller, oui ou non ? Et là, je vais dire, mais c'est pas bien, ça m'a brisé le cœur. Il faut que j'aille le trouver ou l'appeler. Monsieur de Dieu, je vous ai dit ça, je vous demande pardon. C'est pas vrai. Excusez-moi. Ou nous pourrions prendre n'importe quel péché. Et je sais, je le dis parce que ça devient inquiétant. Je parle ce pas à Saint-Anne, je pense au corps de Christ, je ne pense même pas aux assemblées, je pense au corps de Christ en entier. Il y a des chrétiens qui, lorsqu'ils pêchent, ne ressentent plus rien. Et je n'ai même pas envie de faire la liste de choses qui devraient nous interpeller. Ça va loin. Vous voyez, quand il est dit que personne ne souffre à s'ingérer dans les affaires d'autrui. Aimer son frère, c'est une chose. Aimer sa sœur, etc. Mais vous voyez, clac, on a vite fait de basculer dans l'ingérence. On devrait être interpellé par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on pourrait prendre d'autres textes, je ne l'ai pas fait parce que j'ai plusieurs textes à partager avec vous, plusieurs sujets, comme l'analyse de sang, où il y a plusieurs choses à voir. Mais vous vous rendez compte, frères et sœurs, mais sérieusement, un chrétien qui ne ressent plus rien lorsqu'il a été méchant, vulgaire, etc. J'ai même pas envie de citer la longue liste de choses qui quand même devraient nous interpeller. Mon frère, ma sœur, si votre esprit, si notre esprit n'est pas brisé, contrit, lorsque nous avons commis un péché, je peux vous dire qu'on a du souci à se faire. Ne me traitez pas de légaliste. Souvent ça arrive, quand quelqu'un veut justifier des paroles, entre guillemets, presque sévères, on me traite de légaliste. Ça m'est égal, vous comprenez bien. Mais moi, mon souci, c'est quand vous passerez devant Dieu. Moi, mon souci, c'est de tout faire pour que votre âme soit en bonne santé. Vraiment. Et si vous ne ressentez rien quand vous commettez un péché, demandez à Dieu de l'aide. Il vous aidera. Si vous êtes vulgaire ou grossier, C'est des choses qui nous choquent. Moi, c'est des choses. Alors, c'est peut-être moi, parce que je sais que je suis soucieux de parler correctement. Est-ce que c'est normal de parler correctement? Oh, mais tout le monde en dit. Vous n'allez pas nous prendre la tête. Mais tout le monde en dit. Est-ce que notre exemple, ce sont les autres qui vont pas bien? Ou est-ce que notre exemple, c'est le Seigneur? Vous comprenez pourquoi j'ai commencé avec la conclusion que la grâce de Dieu soit avec votre esprit. Un esprit en bonne santé. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Dans Ésaïe 57, on voit, c'est très intéressant de prendre, mais vous pouvez le faire tout seul cette prédication, avec une concordance. Vous prenez le mot esprit avec un E minuscule, c'est toujours l'esprit de l'homme, et vous voyez. Et vous dites, tiens, mais c'est la prise de sang spirituelle. Ésaïe 57, regardez, on va lire jusqu'au verset 18 pour voir comment Dieu, normalement, s'y prend pour nous guérir. On a lu « Guéris mon âme, car mon âme, car je suis malade, voilà, j'ai péché, bon, ça peut être autre chose. » Ésaïe 57, regardez bien, on est dans la même pensée. Vous voyez, ça revient. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Alors regardez bien maintenant, regardez bien comment ça devrait se passer. C'est là qu'on voit quelqu'un qui est en bonne santé, bien sûr. Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits, je ne veux pas contester à toujours, ni garder une colère éternelle, quand devant moi tombent en défaillance les esprits. Vous voyez, quand les esprits sont malades. Les âmes que j'ai faites. Alors regardez bien la suite, frères et sœurs. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité, je l'ai frappé. C'est là qu'on voit que le Seigneur intervient. Je me suis caché dans mon indignation. Le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Verset 18. Il n'y a pas que le constat de ce qui ne va pas. Il y a ce que Dieu va faire. Regardez bien le verset 18, c'est important. J'ai vu ses voies. Je le guérirai. Je lui servirai de guide. Et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Donc Dieu dit, c'est clair. Moi je suis avec ceux qui ont le cœur contrit, humilié. Je suis avec ces gens-là. Je me suis irrité. Ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Donc je te le fais savoir, de telle ou de telle manière, par telle ou telle façon. Mais voilà, je vais te guérir. Et je vais te consoler, à moyen que tu contestes, toujours. Vous savez que le Saint-Esprit ne conteste pas toujours. Au fur et à mesure qu'on entend sa voix, qu'est-ce qu'il est dit? Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous pouvez écouter cette exhortation et dire « c'est intéressant, si ça s'arrête là, bon, ça ne sert à rien ». Vous pouvez dire « oui, c'est bien, c'est complet, c'est une étude ». Non, ce n'est pas une étude. C'est un bilan solennel. Il faut, et c'est important, pour la santé, je reviens, il y a des gens, je vous dis, ils sont obsédés par la santé. Obsédés. Mais on devrait l'être par la santé de l'esprit. On devrait l'être. Mes frères et sœurs, vraiment, on devrait se dire, mais est-ce que mon esprit est en bonne santé? Parce que je veux faire l'œuvre de Dieu, parce que je veux être utile. C'est important pour vous d'être utile ou est-ce que nous ne sommes que des spectateurs dans l'œuvre de Dieu? Non, Dieu veut que nous soyons participants dans l'Église. Oui ou non? Dieu veut que nous soyons participants. Psaume 34. À vous de poursuivre l'examen. Je le dis sincèrement. Dans le psaume 34, verset 19, alors, psaume 34, verset 19. Et on voit, ça revient, c'est impressionnant le nombre de versets qu'il y a. Verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez? Le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, vous voyez, le cœur brisé, l'esprit abattu, ça arrive ou ça n'arrive pas? Oui, on le voit, c'est des combats que nous avons. Mais c'est une chose de combattre quelques jours, quelques heures, quelques minutes. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on est, bien sûr. Ça n'est une autre d'être continuellement malade. Et ces textes nous indiquent, enfin par déduction, je sais très bien que si vous êtes nouveau dans la foi, vous le percevez pas. Mais si vous êtes vraiment attaché à Dieu depuis un moment, vous savez que la repentance est nécessaire. Il y a des chrétiens, et ça fait partie de la doctrine même de certains mouvements, qui enseignent, qui croient que la repentance n'est nécessaire que pour le jour de la repentance et de la conversion. Comme la croix d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, pour eux la croix c'est un vieux souvenir. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'avais besoin de la croix, point barre, c'est terminé, maintenant j'ai autre chose. C'est faux. La repentance, elle est aussi pour les chrétiens. Vous le croyez, frères et sœurs? Vous avez lu certainement les lettres aux églises de l'Apocalypse, en fonction de l'état dans lequel se trouvent les églises, le Seigneur dit, mais repens-toi, sinon... Donc, on voit bien que la repentance, c'est pour les pécheurs. Et si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, vous n'entrerez dans le ciel qu'en passant par la repentance. Ne vous imaginez pas que vous rentrerez dans le ciel parce que vous changez d'une religion qui vous convient moins, c'est celle-là qui vous convient mieux. Vous n'entrerez pas dans le ciel parce que vous changez de religion ou parce que vous changez même de moralité. Vous rentrerez dans le ciel parce que vous passez par une profonde repentance. Mais un chrétien ne reste en bonne santé que lorsqu'il se repent, quand c'est nécessaire. On ne va pas faire des faux chrétiens. Mais est-ce que ça peut arriver que j'ai besoin de me repentir parce que je me suis fait piéger, je suis tout le temps, je rends toujours un mauvais témoignage? Est-ce que vous ne pensez pas que je pourrais demander pardon au Seigneur ou aux gens à qui je casse les pieds? Est-ce que ça ne serait pas nécessaire de dire « je vous demande pardon, je demande pardon au Seigneur » ? Un esprit brisé, un esprit abattu, mais quand vous voyez, vous pouvez voir que le côté négatif, ce qui n'est pas bien, mais quand vous voyez le côté béni de cette affaire, l'Éternel est prêt de ceux qui ont l'esprit abattu, le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, ça en dit long, si on est logique, parce qu'il faut, il y a du bon sens, s'il est prêt de ceux qui ont le cœur brisé, on peut en déduire que Dieu s'éloigne de ceux qui ont le cœur dur. C'est évident. Et mes frères et sœurs, je le répète, le péché devrait toujours nous attrister. Toujours. Si vous vous familiarisez et si vous banalisez le péché, je peux vous dire, je vous le dis avec amour, que votre âme est malade. Ça c'est sûr. La repentance, elle est nécessaire chaque fois que j'ai commis un péché. On l'a lu dans Ésaïe 57, vous avez vu, j'ai vu ces voix. Je me suis irrité. Oui, le Seigneur, il peut dénoncer certaines choses. Ça ne lui plaît pas, puisqu'il sait très bien. On pourrait dire, mais pourquoi Dieu s'irrite pour ça? Eh bien, parce que si nous savons attrister le Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu ne pourra pas se faire. Mais c'est évident. Mes frères et sœurs, c'est évident. Dieu est plus intéressé que nous à ce que notre esprit soit en bonne santé, croyez-moi. Donc c'est dans cet état d'esprit, en plus c'est simple quand vous allez me dire, moi j'y passe des jours, d'accord. Mais il n'empêche, mes frères et sœurs, que nous avons absolument tout à gagner. Je parlais du magnésium pour sauver, de certains aliments pour nous guérir des crampes. Vous ne croyez pas que ça vaut la peine de comprendre ce qu'est l'humilité? Et l'humilité, ça ne concerne pas que notre relation avec Dieu. Parce que nous l'avons déjà observé, il y a des gens qui sont d'une humilité totale lorsqu'ils prient, par exemple. Vous êtes d'accord avec moi? Vous le savez. Il y a des gens, quand ils prient, c'est à faire pleurer les chaises. Tellement. Mais l'humilité, ça ne concerne pas que la relation avec Dieu, ça concerne l'humilité avec les autres. Vous comprenez, frères et sœurs? Et ça devrait peut-être nous interpeller. Mais en fait, je suis d'accord, parce qu'être humble avec Dieu, c'est assez facile. Enfin, entre guillemets. Mais être humble avec les autres, c'est une autre paire de manches. Et ça, c'est important. Parce que Dieu nous enseigne ces choses, de ne mépriser personne. Est-ce que dans des églises, il peut y avoir des pauvres, il peut y avoir des riches? Est-ce que c'est normal? Eh bien oui, c'est normal. Le pauvre et le riche se rencontrent, l'Éternel a fait l'un et l'autre. Oui ou non? Mais le riche doit savoir comment il doit se comporter par rapport au pauvre. Et le pauvre doit savoir comment il doit se comporter par rapport au riche. Un pauvre ne doit jamais juger un riche. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Un riche ne doit pas mépriser un pauvre. Tu sais, si les pauvres, ben, c'est bien sa faute, il a cabossé. C'est vrai qu'il y a plein de cas. Il y a tous les cas de figure qui existent. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a tous les cas. On peut tous prétexter des trucs pareils. Mais que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Qu'a dit Jésus dans le premier sermon ? La première fois il prêche le Seigneur. Vous connaissez le sermon sur la montagne ? Il va dire, heureux les pauvres en esprit. Vous voyez, il y a des églises qui se sont emparées de ce verset pour faire que du social et que s'occuper que des pauvres matériels. Et bien sûr qu'il faut s'occuper des pauvres. Mais c'est quoi, heureux les pauvres ? Il n'a pas dit les pauvres financièrement, il a dit les pauvres en esprit. Heureux l'homme qui dépend toujours de Dieu. Pas le dimanche matin, parce que certains... Écoutez, moi, c'est vrai que des fois, je suis maladroit. Je le sais. Tout ce qu'on me dit, je le sais. Mais mes frères et sœurs, soyons sérieux. On parle de bonne santé. C'est important pour vous que votre esprit soit en bonne santé ou vous vous en fichez ? Sérieusement. Même pas que pour vous, mais pour les autres. Pour l'œuvre de Dieu. Quand un chrétien dépend que de lui-même, et je sais, ça me fait mal au cœur de le dire, mais quand même, je dois le dire. Il y a des chrétiens qui s'imaginent qu'ils sont spirituels parce qu'ils vont à l'église. Et qu'ils pensent que Dieu est avec eux parce qu'ils vont à l'église. On n'est pas spirituel parce qu'on va à l'église. On est spirituel quand on respecte la parole. Qu'on y aille plus ou moins à l'église. Mais quand un chrétien dépend de lui-même, de ses propres forces, de ses propres résultats, etc., etc., il se met en vrac. Le Seigneur nous enseigne à ne dépendre que de lui. Succès ou pas. Si nous dépendons de nos expériences, j'ai fait des expériences, d'ailleurs vous l'avez vu, combien de gens ont fait des expériences et ont abandonné Dieu, oui ou non ? Un chrétien, il doit dépendre de Jésus. Qu'il soit dans l'abondance ou qu'il soit dans la disette, quels que soient tous les cas de figure. Vous avez vu dans l'Apocalypse, ils en étaient arrivés, dans la Odyssée, ils en étaient arrivés à se tromper. Ils dépendaient de leurs résultats. Et d'ailleurs, Jésus va leur dire, mais tu ne sais pas que tu crois que tu es riche, parce qu'ils avaient réussi matériellement, mais tout ça, mais c'est bien. Mais tu ne sais pas que tu es pauvre. Ça s'appelle l'illusion. Et il y a des chrétiens qui, comme les chrétiens de l'Odyssée, et aujourd'hui ça représente l'église de la fin des temps, sont exactement dans le même cas de figure. Il y a l'évangile de l'illusion. C'est pour ça que je vous disais avec sérieux qu'il y a des gens qui s'imaginent, ils s'illusionnent en pensant qu'ils sont spirituels parce qu'ils vont à l'église. On n'est pas spirituel comme ça, on est spirituel quand on respecte ce qu'on est en train de lire. Un autre texte, parce que je vois que le retourne. Quand Paul parle à Timothée, Timothée a besoin d'être encouragé, d'être exhorté, c'est un jeune pasteur. C'est intéressant que peut-être pour les responsables, tiens, jeudi soir, vous avez mal fait les annonces, Michael. Vous n'avez pas annoncé que jeudi soir, on ferait la réunion des responsables, mais je vous aime quand même. Dans l'épître à Timothée, dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1er, on verra justement certains aspects des responsables dans une église. De Timothée, chapitre 1er, verset 7, regardez bien, 6 pardon, il a besoin d'être encouragé comme nous tous. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1er, verset 6, regardez ce que Paul dit à ce jeune pasteur. « Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, son esprit, avec une majuscule, donc c'est le Saint-Esprit, vous le comprenez bien, remplit, on pourrait dire remplit notre esprit de force, d'amour et de sagesse. » Donc là, on voit bien que l'humilité n'a rien à voir avec la timidité. Beaucoup de gens confondent la timidité et l'humilité. Mes frères et sœurs, ça c'est un sujet qu'on devrait vraiment entreprendre. Vraiment entreprendre. L'humilité, c'est l'oubli de soi-même. C'est-à-dire que voilà, je ne dépends pas de moi, je dépends de Dieu. En plus, Dieu fait grâce aux hommes. Je ne dépends pas de mes succès, je le répète, de mes échecs, de mes faiblesses, tout ça. Je ne dépends pas de ça. La timidité, c'est être esclave de ses faiblesses. Ce n'est pas la même chose. Retenez-le, mes frères et sœurs. L'humilité, c'est un oubli de soi-même. La timidité, je suis esclave. Je suis esclave de mes faiblesses. Et ce que Dieu veut, c'est que justement nous ayons beaucoup de respect pour la parole. Celui qui craint ma parole, Seigneur, si tu le dis, c'est important. Ce n'est pas ce que je pense qui est important. Mais moi, je suis timide, vous savez. Mais non, Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité. Dieu vous a donné un esprit, son esprit, le Saint-Esprit, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu me demandes de faire quelque chose ? Ben je le fais. Tu me demandes de croire toutes ces promesses qui me dépassent même peut-être ? Ben je les crois. Tu m'avertis de tel ou tel danger, je tiens compte, je ne fais pas le malin. Un esprit de force. Pourquoi Dieu dit à Timothée, Dieu t'a donné un esprit de force. Pourquoi ? Parce que Dieu nous donne de la force spirituelle face à l'ennemi. On a un ennemi quand même. Non, il n'y a pas un ennemi qui essaie de nous décourager, de nous voler notre couronne, de nous décourager, etc. C'est ruse. Un esprit d'amour. Pourquoi la force ? Parce qu'il y a un ennemi. L'amour, pourquoi ? Parce qu'il faut aimer les frères. Oui ou non ? Et il faut aimer. Il faut même aimer ses ennemis. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Comment faire ? Mais moi, aimer mes ennemis, mais tu plaisantes, j'ai du mal à aimer ma femme. Ne riez pas. Parce que ça arrive dans les églises. Ma femme, j'ai du mal à la supporter. Elle m'énerve. Je ne la supporte plus. Et vous me demandez d'aimer nos ennemis ? Non, mais vous plaisantez ? Non. Moi, je crois que le Saint-Esprit, le Dieu grand et puissant, peut remplir notre esprit d'amour. Est-ce que j'exagère ? Est-ce que c'est du rêve ? Est-ce que vous l'avez jamais vécu ? Je pense, je le dis avec tristounette, je pense que beaucoup de chrétiens n'ont jamais expérimenté cela. Ça fait qu'ils décrochent parce qu'ils n'ont pas pris le temps de faire ces choses. Ils prendront, j'y reviens sur mes analyses de sang. Ça, ils vont prendre le temps. Ils attendront une heure dans la salle d'attente. Ils attendront le temps qu'il faut. Ils resteront à jeun le temps qu'il faut pour que la prise de sang ne soit pas déréglée. Vous ne croyez pas que ça vaut quand même la peine de travailler à ce que la grâce de Dieu soit avec votre esprit ? Un esprit de force par rapport à l'ennemi, un esprit d'amour par rapport aux gens, un esprit de sagesse par rapport à toutes les situations qu'on rencontre. Parce que des situations, il y en a de plus en plus. Ça peut être compliqué, les situations, oui. Est-ce que le Saint-Esprit peut nous donner de la sagesse ? Est-ce qu'il est dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu ? Je lui ai posé la question il y a quelques semaines. Je le dis, mais solennellement. C'est quand la dernière fois où nous avons demandé de la sagesse à Dieu ? C'est quand, vraiment ? Je suis sûr qu'il y en a qui... Mais moi, je suis sûr, quelqu'un l'a dit d'ailleurs. J'ai jamais demandé de la sagesse à Dieu. Eh bien, vous devriez commencer. Seigneur, donne-moi de la sagesse, parce que là, je traverse un truc. J'ai besoin de ta sagesse. C'est pas moi, avec mon analyse super intelligente, qui vais y arriver. Avec ma personnalité super élevée, qui va arriver à quelque chose. Oui, il y a des situations difficiles. Mais moi, je crois qu'un esprit en bonne santé, c'est un esprit qui reçoit l'esprit de Dieu. Dieu vous a donné. Il n'a pas marchandé. Il nous le donne. Quand on va passer devant lui, on va certainement être peiné de voir qu'on aurait pu recevoir beaucoup plus de choses que ce qu'on avait reçu. Cette force, vous voyez, et d'un côté, on est où ? Dans Timothée, regardez un peu avant, dans Galates. C'est pour vous expliquer qu'un chrétien, il doit rechercher cet équilibre. Dans Galates, là, on a... Alors là, j'aurais voulu faire toute une digression pour qu'on comprenne bien. Dans Galates, au chapitre 6, là, il est parlé de la discipline dans l'Église. Vous voyez, la discipline dans l'Église, c'est un sujet très sérieux. Vous voyez, d'un côté, on ne juge pas le comportement. Des fois, on juge le comportement des gens. Il faut juger le péché dans l'Église. Vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est écrit qu'il faut juger le péché ? Oui, c'est écrit. Mais il faut le faire dans quel état d'esprit ? Dieu m'a donné un esprit de force, alors ça va chauffer. Non, regardez, Galates 6, verset 1. Frère, non mais c'est ça l'équilibre. Et le Saint-Esprit nous l'accorde, je le crois vraiment. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le, comment ? Avec un esprit de douceur. Voyez, la douceur, c'est un fruit de l'esprit. La force, la fermeté, la discipline, la maîtrise de soi, tout ça qui doivent être des vertus, ne doivent pas nous empêcher d'être sensibles dans les situations que nous rencontrons. Voyez, ça c'est important. Bien sûr qu'il faut être ferme lorsque c'est nécessaire, mais je crois aussi que le Saint-Esprit est un esprit de douceur. Lorsque il faut de la douceur. Un esprit doux, écoutez bien, frères et sœurs. Vous savez, vous comprenez bien que je prie et que je passe du temps devant Dieu parce que c'est ce que Dieu me demande pour que j'exerce mon ministère pastoral. Un esprit doux est un esprit qui ressent la volonté de Dieu. Un esprit dur ne ressent rien du tout. C'est pour ça que je pourrais revenir à mon premier point et expliquer qu'il y a des gens, ils pêchent, ils s'en rendent même pas compte. Ils vont regarder un truc grossier, vulgaire, décadent à la télé, ça ne va rien leur faire. Pourquoi ? Parce que leur cœur n'est plus sensible. Et si vous reméditiez tout ce que j'ai partagé avec vous, vous comprendrez la logique de ce que je vous dis. Un esprit doux est un esprit qui ressent la volonté de Dieu. Un esprit dur ne ressent rien, rien. La douceur, un esprit de force. Regardez dans Romains au chapitre 12, un peu avant. Et il y en a des textes, on pourrait passer, je pense qu'on pourrait passer la journée. Vous voyez, le faire, bon, je pense qu'on va arrêter. Mais on pourrait le faire. Romains 12, verset 11, par rapport à l'esprit. Je rappelle que tout ce que l'on voit ne peut que nous permettre, si nous obéissons avec cœur, à avoir un esprit en bonne santé, dans lequel le Saint-Esprit pourra travailler et faire son œuvre dans l'Église. Romains 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. » Donc, alors la ferveur, là aussi la ferveur, est-ce que le zèle peut être charnel ? Est-ce que le zèle peut être diabolique ? Oui, c'est écrit, tout ce que je vous dis c'est écrit. Donc nous devons absolument nous appliquer. C'est pour ça que si on ne fait pas le pendant de chaque vertu, on va se louper. Donc le zèle ou la ferveur, puisqu'on est dans la ferveur charnelle, elle va faire des efforts elle aussi. Les hommes dans le monde sont capables de faire des efforts pour tel ou tel sujet, ils ont raison. Mais dans l'Église, la ferveur charnelle fait des efforts pour ce qui nous plaît. Tandis que la ferveur d'esprit, ça nous permet de servir Dieu vraiment comme il le veut. Mes frères et sœurs, soyons fervents d'esprit, pleins de douceur, pleins de sagesse, pleins d'amour. L'esprit de Dieu fait ces choses. Vous le croyez, frères et sœurs ? Sinon, nous sommes, je le dis maladroitement, sinon nous sommes des religieux, des croyants religieux. Et ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que les chrétiens, les églises, soient en bonne santé. Vous le croyez, ça ? C'est sa volonté. Proverbe 17. Proverbe 17, 27. Combien je voudrais, mes frères et sœurs, que vous le fassiez vous-même, ce travail. Je sais qu'il faut que vous soyez aidés. C'est mon devoir. Les pasteurs sont des dons pour l'édification de l'Église. Mais je vous assure que c'est un travail que ceux qui ont 2 ou 3 ans de conversion pourraient faire facilement, avec une concordance. En plus, les concordances, maintenant, elles sont gratuites. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous pouvez, par Internet, vous tapez concordance biblique, en 10 secondes, vous tapez le mot esprit avec un petit E, et vous avez tous les textes. Vous pouvez les imprimer, et vous avez l'analyse de sang qui se prépare. Proverbe 17, 27. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Voyez ? Voyez ça, un esprit plein de force, paf ! Si on est intelligent, ben si on est équilibré, on en revient à dire, mais il me faut également un esprit calme. D'un côté, notre esprit doit être fervent, de l'autre, notre esprit doit être calme. La ferveur, on l'a vu, pourquoi ? Pourquoi la ferveur, en fait ? La ferveur pour servir le Seigneur. Le calme pour régler les problèmes. C'est comme ça que vous le voyez, ou est-ce que je... Parce que je peux me tromper aussi, mais est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on le voit? Cette ferveur d'esprit, oui, je servirai le Seigneur avec zèle, mais j'aurai un esprit calme par rapport aux problèmes que je vais rencontrer. Un esprit abattu, vous voyez? Regardez maintenant, c'est Marie, vous ne le cherchez pas, qui dit, dans le cantique, ce qu'on appelle le Magnificat, elle dit, « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Voyez cet équilibre. D'un côté, on peut avoir l'esprit brisé parce qu'on veille attentivement sur notre âme. Dès que je commets quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, oh, qu'il est bon d'avoir un esprit brisé, tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Et en même temps, nous voyons cette parole de Marie, « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de soi-même, nous devons conserver un esprit humble, brisé, mais vis-à-vis de Dieu, notre esprit doit se réjouir. C'est pour ça qu'on demande souvent au meneur de chant de commencer la réunion par un chant qui parle de la joie du salut. Est-ce que c'est cohérent ? Oui. Mon esprit se réjouit en Dieu. Je ne me réjouis pas à cause de mes succès ou à cause de mes résultats. D'ailleurs, vous vous rappelez, quand les apôtres sont revenus d'une mission, « Oh, maître, tu sais pas, même les esprits nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus va les ramener à une réalité que nous devrions tous avoir, quel que soit le résultat ou les échecs. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Parce que vous savez le résultat, ça va et ça vient. Mais la joie en Dieu, elle doit rester. Et il ajoute, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » Il y a des sujets de brisement qui sont une bénédiction. Et il y a des choses qui devraient quand même nous interpeller. Oui, je suis affligé parce que je me suis mal comporté, mon esprit est brisé, il faut que je règle cette affaire. Mais en même temps, je me réjouis parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Vous avez vu Paul en prison? Regardez quand même, je le prends dans Philippiens. Regardez avec moi, c'est important. Dans Philippiens au chapitre 4, Paul, il est en prison. Il est en prison. Vous allez me dire, il y est habitué, peut-être. Mais mes frères et sœurs, il est en prison. Vous allez être étonnés le nombre de fois, si vous relisez cet épître, où il parle de joie. C'est impressionnant. Regardez ce qu'il dit. Mes frères et sœurs, je ne sais pas ce qu'on ferait si on était en prison. Regardez bien ce qu'il dit à ces chrétiens, mais notez, surlignez toutes les fois où il parle de joie. C'est vraiment hallucinant. Et il leur dit, il leur parle, il les exhorte, alors que ça aurait été peut-être aux chrétiens de le faire à sa place. Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous. » Vous l'avez, la Bible ? Vous avez votre Bible ouverte ?« Réjouissez-vous toujours dans le succès. » Quand vous avez du succès. Non ? Pardon. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et on le voit, regardez, c'est impressionnant. Voyez au verset 10, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. Lisez-les, faites-le s'il vous plaît. Prenez cette épître et regardez toutes les fois où il part de cette grâce. L'esprit du chrétien. Mes frères, écoutez-moi bien. Pas pendant le culte. Tout le temps. L'esprit du chrétien en bonne santé. C'est un chrétien qui se réjouit dans le Seigneur. Bien sûr qu'il est conscient, c'est pour ça que j'ai pris cette épître. Regardez au chapitre 3 et au verset 18. Il pleure. Mais on pourrait dire, mais il est ambivalent cet homme. Il est ambivalent. Non. Philippiens chapitre 3, verset 18, il parle, regardez, il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Alors, il faut pleurer ou se réjouir? Par rapport à l'œuvre de Dieu, il y a des choses qui peuvent nous faire pleurer. Mais par rapport à notre position en Christ, mes frères et sœurs, nous devons nous réjouir. Vous voulez un esprit en bonne santé? Et c'est sérieux. Pourquoi ça a été écrit tout ça? Toute l'écriture est inspirée pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous enseigner selon la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, qui remplit les conditions, je l'ai déjà dit. Oui, je me réjouis dans le Seigneur. Vous rendez compte, frères et sœurs, si Jésus revient ce soir nous chercher? Vous ne croyez pas que ça vaut la peine de se réjouir, d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie? Et c'est pour ça que j'ai commencé avec la conclusion. Que la grâce de Jésus-Christ soit avec votre esprit. Votre corps, je ne sais pas où il en est, votre corps. Je sais bien que le corps, il faut s'en occuper quand même. Mais que la grâce du Seigneur Jésus soit avec votre esprit. Si la grâce de Jésus est dans mon esprit, que va-t-il sortir de mon esprit? Eh bien, des paroles de grâce. Si je suis en colère, il va sortir quoi? Ben, de la colère. Si je suis furieux, ben, il va sortir cette furiosité. C'est évident. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et on pourrait là déborder dans ce sujet. Un esprit plein de grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec votre esprit. Mes frères et sœurs, sérieusement, je m'adresse à ceux qui se maintiennent dans une vie charnelle, qui justifie leur caractère désagréable. Écoutez, si Dieu m'a mis ça à cœur, c'est que ça doit correspondre à quelqu'un. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, moi ça m'est égal. Mais quand vous passerez devant Dieu, vous ne pourrez pas dire que Dieu ne vous l'a pas dit. Votre caractère, notre caractère, comment est-il? Est-il pénible? Difficile? Est-ce que nous nous justifions? Mais ouais, si tu savais avec qui je suis, si tu voyais ce que je traverse. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul, il a été battu, emprisonné, abandonné. Il se réjouissait. Pourquoi? Parce que son esprit était en communion avec Dieu. Et le nôtre peut l'être également. La solution, on la sait, on la dit souvent, on la répète, on l'entend, on la chante. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir la grâce. Oui ou non? Pas afin de. On ne prie pas pour prier, on prie pour obtenir. Oui, mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas, on ne sait pas, des fois on n'ose pas en parler, ce n'est pas évident de dire ce qu'on traverse, etc. Mais moi, je crois qu'à Dieu, on peut tout dire. Dieu regarde, on l'a vu dans le psaume 41. Dieu voit. On vient de lire que ça. Mais Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Mais c'est vrai, il faut que j'arrête de justifier mon sale caractère. Il faut que j'arrête de justifier ma dureté. C'est de la fermeté, monsieur Gaud, c'est pas de la dureté. Vous confondez. Non, non, non. On sait très bien lorsque c'est de la dureté ou c'est de la fermeté. Et je crois que de la même manière qu'on est capable de faire confiance à un docteur, vous faites confiance aux analyses de sang, vous êtes tout le temps en train de dire « moi je ne lui dis pas, je n'ai pas confiance, c'est tout bide ». Vous faites confiance à un docteur qui s'est appliqué à vous donner un compte rendu de votre état sanguin. Vous lui faites confiance. Nous ne pouvons pas faire confiance à notre Seigneur. Vous ne pouvez pas faire confiance au Seigneur Jésus? Est-ce que vous lisez la parole, la sainte parole? frères et sœurs? Vous voulez quoi dans les derniers jours que nous vivons? Vous ne voulez pas avoir un esprit en bonne santé? Sérieusement, un esprit en bonne santé, une église en bonne santé, quelle joie! Même si on peut pleurer parce que des choses nous ont peinés, en même temps, est-ce qu'on ne peut pas se réjouir de voir que Dieu s'intéresse à votre esprit, à votre corps aussi, vous inquiétez pas, Dieu il s'intéresse à notre corps, il est mort pour nous guérir aussi. Mais quand même, frères et sœurs, sérieusement, je le répète, est-ce que c'est important pour vous que votre esprit soit en bonne santé, ou est-ce que ça vous est égal? Ou est-ce que vous voulez juste un protecteur? Seigneur, protège-moi dans la semaine, bénis-moi, bénis le patron, qu'il n'oublie pas de faire ce qu'il a à faire. Bénis ci, bénis là. Tant pis mon esprit s'il est en vrac. Non, mes frères et sœurs, Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui ont l'esprit qui se réjouit. Parce que quand vous vous réjouissez en Dieu, c'est que vous lui faites confiance, croyez-moi. Ça, c'est sûr. Alors, on va lui demander qu'il nous aide vraiment. Cette semaine, à reprendre les Saintes Écritures et à dire, mais Seigneur, que je m'arrête sur tous ces textes où il est parlé de l'esprit de l'homme. J'ai fait que effleurer le sujet, croyez-moi. Mais si nous nous rendions compte combien dans notre pays, les églises seraient certainement dans un autre état si nous nous occupions de notre santé spirituelle. Pas de l'autre. Occupez-vous des autres, mais occupons-nous peut-être d'abord de notre santé spirituelle.